podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les masterclass.
On est sur la table, la longue table de la cuisine, et à un moment, il se lève et puis il se met à peindre. Enfin, les mots venaient sur la toile.
Basquiat, à mon sens, Basquiat sans le vaudou, il n'y a pas de sens.
Tif. Chaque fois que tu le prononces, c'est une note différente ou une longueur différente. Et avant, ouais, je lisais pas trop les mots, puis je me suis mis à plus les lire. Ouais.
Donc bonjour à toutes et à tous que vous venez d'entendre. C'est donc un extrait de Basquiat expérimental, une création sonore réalisée en famille, puisque Roman Couder, vous avez produit donc la musique, et votre père, le journaliste Antoine Couder, a recueilli plutôt lui les mots de ceux qui ont connu l'artiste Jean-Michel Basquiat. Ce podcast, il a été produit par Narrative en partenariat avec la radio Nova, avec le soutien aussi d'un groupe hôtelier, l'Expérimental Group, et il a également pu voir le jour, grâce, il faut bien le dire, à la bourse du ministère de la Culture, donc dédiée aux autrices et auteurs de créations sonores, qui a été renouvelée encore une fois, un peu in extremis cette année. Mais Basquiat Expérimental, c'est pas vraiment un podcast. Vous, en tout cas, vous parlez plutôt d'une création à mi-chemin entre la fiction et le documentaire, entre slam, témoignage intime, mais vraiment où les mots s'entremêlent en permanence avec la musique. Et surtout, vous préférez, pardon, parler d'un podcast musical mixtape. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ouais, c'est ça. J'espère qu'on m'entend bien. Bonjour, déjà, pour commencer. On préfère, en fait, c'est pas vraiment un podcast qui est un podcast classique, si on peut appeler ça comme ça. On appelle ça mixtape parce qu'en fait, il y a toujours de la musique, du début à la fin. La musique ne s'arrête jamais. Il y a autant de la musique que du talk. Donc, c'est-à-dire qu'il y a autant de la musique que des interviews. Plus ou moins 50-50, on peut dire ça comme ça. Et donc, ça aurait été un peu différent, un peu bizarre de l'appeler podcast, tout simplement. Parce qu'un podcast, on s'attend à avoir des gens qui discutent et avec un peu d'habillage sonore derrière, un peu de sound design. Là, ça reste une vraie mixtape qui, en plus, a du podcast, en plus, à titre informatif.
Et c'est pas le premier podcast sur lequel vous travaillez ?
On a fait exactement la même chose avec la même productrice de chez Narrative, où on a fait la même chose pour le pain de Fernand Léger. Qui est un peu différent de Basquiat, parce que c'est plutôt dans les années 50. C'est un petit peu c'est un peintre que moins de gens connaissent, en tout cas peut-être de ma génération, mais qui était exactement sur le même principe, qui était la même mixtape podcast, comme on dit ça, où ce sont que des titres que j'ai composés, donc que de la musique originale, qui sont reliés du début à la fin sans jamais s'arrêter. Et en fait, tous ces titres vont plus ou moins ensemble et sont en fait enchaînés comme si j'étais en fait le DJ de mes propres sons et de les enchaîner avec deux platines les uns après les autres. Il n'y a jamais un moment où le son s'arrête complètement.
Et comment ça s'est fait ? Enfin, comment est née l'envie de travailler sur ce podcast lié à Jean-Michel Basquiat ?
Il y a eu des annonces pour les expositions à Louis Vuitton et aussi à la Philharmonie. Donc je crois que c'était un an avant, quelque chose comme ça, on a su qu'il allait avoir les expositions. Moi, j'avais envie de travailler sur Basquiat. Mon père, qui a aussi travaillé dessus pour les interviews, voulait aussi travailler dessus. Et donc, c'est là où on a fait la demande, justement, au ministère de la Culture, qui a accepté notre demande. Du coup, on a été financé en fait, par ça pour pouvoir travailler dessus. Plus ou moins un an avant que ça sorte.
Et alors on y reviendra, mais vous qui êtes avant tout producteur de musique, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de travailler ? Est-ce que dans votre approche de travailler sur un podcast comme ça avec une approche aussi journalistique ?
Dans un sens, ça reste de faire de la musique, tout simplement. Sauf qu'il y a un moment, il fallait quand même se mettre un peu dans la peau de Basquiat. Il fallait essayer de comprendre ce qui se passait à ce moment précis. Quand les proches de Basquiat parlaient en fait de lui, ils étaient clairement avec lui à ce moment-là. Ils essayaient de montrer un peu le ressenti qu'ils avaient, les sentiments qu'elles avaient. Je pense surtout à Nathalie et Marie, qui étaient un peu les premières qu'on a interviewées, où moi j'étais sur place à ce moment-là. Et elles ressentaient, c'était vraiment deux amies proches de Basquiat, et on ressentait comment se passait en fait ce moment-là dans les années 90 à New York. Elles nous ont beaucoup expliqué de comment était le New York des années 90, qu'est-ce que faisait Basquiat, à quoi il pensait, quelle musique il écoutait évidemment. Et pour moi, faire de la musique pour ce podcast-là, avec ma musique, ça donnait sens d'essayer de me mettre un peu dans la peau de quelqu'un qui était un peu leur ami à eux, et d'essayer de me dire, ok, je suis un peu l'ami imaginaire de Basquiat, je suis avec Nathalie, je suis avec Marie, et je suis derrière eux, et j'essaye de ressentir quelque chose, et à ce moment-là, d'essayer de voir quelle musique j'aurais aimé à ce moment-là écouter. Retranscrire exactement ce qui se faisait à ce moment-là, ça aurait été... Enfin, pour moi, j'aurais trouvé ça un petit peu bête, parce que dans ce cas-là, on prend les musiques qui existent déjà, en fait, les musiques garage de house dont elle parle à ce moment-là, c'est mieux vaut les prendre que plutôt les reproduire. Donc j'ai essayé de le faire à ma sauce, si on peut dire ça comme ça, et en même temps d'essayer de comprendre quel était le mood à ce moment-là. Donc quand ils allaient en club, quand ils se couchaient à 6h du matin, évidemment, je pense que tout le monde sait ici que Basquiat avait certains penchants à ce moment-là, dans quel état ils étaient. Quelle musique j'aurais aimé, c'est comme si c'était un film en fait, de voir un peu, d'avoir cette musique autour de ces personnes à ce moment précis.
Et d'un point de vue méthodo, alors vous m'aviez dit en préparant que vous aviez assisté à la plupart des interviews avec votre père, mais pas toutes.
Non, pas toutes, non.
Ouais. Et que justement ça avait posé des soucis.
Ouais, ça a posé quelques soucis. Alors, c'est évidemment mieux d'être en interview directement. Après, dans un sens où, vu que c'est moi aussi qui fais le montage audio de ces interviews, évidemment, les interviews durent 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures pour des épisodes qui font 8 minutes où il y a 8 personnes dedans. Donc, évidemment, il y a on prend une très petite partie en fait, de chaque interview. Mais du coup, j'écoute quand même toutes ces interviews du début à la fin pour voir un petit peu. Le seul souci, c'est que j'ai essayé de composer sur certains épisodes la musique avant de découper les interviews, avant même de mettre les mots sur la musique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, on appelle ça de la musique à l'image. Donc, c'est-à-dire que normalement, sur les mots, on met de la musique. Moi, j'ai essayé de faire le contraire à ce moment-là, et en fait, ça n'a pas forcément fonctionné, parce qu'il y a un moment où ça ne rentre pas dans les cases, on sait pas, ça ne va pas forcément avec ce moment-là. Finalement, on me dit, ça, il ne faut pas le mettre au début, il faut le mettre à la fin, on ne peut pas forcément mettre... Ça a créé énormément de soucis, donc il s'avère que sur 2 épisodes, j'ai dû tout recommencer du début à la fin. Mais, moi, c'est évidemment mon 2e podcast, surtout dans ce style-là de mixtape podcast. C'est normal que je fasse des erreurs au début. Et ça a donné de bonnes choses, parce que ça a créé d'autres musiques qui ont permis sur d'autres épisodes, à d'autres moments, de faire ça. Mais pour les prochaines fois, il faut se souvenir de d'abord mettre les mots avant de mettre la musique, généralement.
Si on dézoome un peu, on reviendra ensuite au podcast et on va en écouter pas mal d'extraits. Mais on repart un peu en arrière. Est-ce qu'il y a eu un moment décisif dans votre parcours où vous êtes dit c'est ça que je veux faire, je vais me lancer là-dedans, je vais faire que de produire de la musique, arrêter les études ou pas?
Alors moi, j'ai pas arrêté les études. J'avais commencé à faire un peu de musique avant, j'avais fait un petit peu de guitare, j'avais quelques groupes de rock, et quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique électronique, j'ai créé un groupe qui existe toujours d'ailleurs, mais qui est tout seul maintenant, qui s'appelle Crayon, où on s'est séparé assez rapidement dans notre band pour diverses raisons. Mais le moment le plus important, je pense, c'est que j'ai été en année de césure. En fait, j'ai fait des études de commerce où j'étais dans une année de césure à Dublin en Irlande. Et comme on connaît tous un peu ce pays où il fait quand même pas très beau, où il pleut un peu tous les jours, et donc j'ai fait beaucoup de musique chez moi, tout seul, entre les cours. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un titre qui est passé à la radio en Angleterre et en France. Et donc, ça allait assez vite après ça, signé dans quelques labels indépendants pour après, 2 ans après, signer chez Universal Music, où là, je me suis entièrement dédié en fait à la musique, à la création. Donc, que ça soit représentation sur scène, que ça soit faire des clips, que ça soit sortir de la musique, être en radio, tout ça. Donc, c'est juste à la fin de mes études, en tout cas, c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment professionnellement, si on peut appeler ça comme ça, à faire de la musique.
Et alors que en 2020, la pandémie et la crise sanitaire nous frappent, on aurait pu se dire que pour les artistes, ça aurait pu être l'occasion d'avoir un peu un temps mort et pourquoi pas de se consacrer à la création beaucoup davantage. Vous, au contraire, ça a plutôt été un moment difficile à ce niveau-là. Et en même temps, c'est après que vous êtes lancé dans une énorme production. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce que vous avez produit un son par jour, vous êtes lancé ce défi-là?
Ouais, pendant un an.
Donc c'était en...
Je pense que c'est 2022 à 2023, du coup, donc ça s'est terminé récemment. En fait, le truc pendant la pandémie et surtout pendant les lockdowns, tout le monde a cru que les artistes allaient pouvoir créer de la musique et ne pas être pris par les soirées, ne pas être pris par exemple moi en tant que DJ, de pas jouer à côté et de pouvoir faire de la musique tous les jours, 24 heures sur 24, sans avoir de soucis. On se disait ça tout à l'heure en off, mais généralement les artistes ont besoin d'expérience, ont besoin de vivre des choses, ont besoin de sortir, ont besoin d'écouter de la musique et pas forcément chez soi devant son ordinateur. Sans ça, ils ont moins de créativité, ou peut-être que je parle que pour moi, mais en tout cas, s'il y a des artistes ici, ils pourraient peut-être dire la même chose que moi. On a besoin de vivre des choses, en fait, pour pouvoir créer. Et donc, du coup, moi, pendant toute cette partie où on était chez soi pendant la pandémie, j'ai pratiquement rien composé, ou ça doit être peut-être quelques titres en un an. J'ai eu un peu l'impression d'avoir raté quelque chose. Au début, je pensais que j'étais le seul. Et donc, du coup, je me disais, il faut absolument que je récupère. Il faut absolument que j'arrive à reproduire des sons. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, je vais me lancer un défi. Je vais essayer de faire une musique, un son, tous les jours, pendant un an. Donc, c'est-à-dire pendant 360 jours. Ce que j'ai fait pendant un an, il y a des titres qui sont super. Il y a des titres qui sont moins bien. Il y en a plus qui sont moins bien que bien, il y en a où c'est juste un beat hip-hop, il y en a où c'est quelque chose de beaucoup plus abouti, il y en a où il y a des voix dessus, il y en a où il n'y en a pas. Il y a des styles entre l'électro, entre le hip-hop, entre l'afro house, entre n'importe quoi, il y a de la pop, il y a du jazz. Et à partir de ça, déjà ça m'a fait du bien créativement de pouvoir faire ça, d'essayer d'explorer des nouvelles choses, d'arrêter de me dire « Ok, j'étais à un moment de ma vie à ce moment-là avec Universal où on faisait un style de musique précis pour moi. » C'était ce style et rien d'autre, et donc ça m'enfermait en fait dans une sorte de sphère où il n'y avait que ça qui existait, il n'y avait que ce style de musique, on faisait que avec ces instruments-là. Et au bout d'un moment, moi je pensais que je devais pouvoir m'ouvrir en fait à d'autres styles, d'autres gimmicks, d'autres choses. Et du coup, à donner ces 360 titres pendant cette année, qui j'appelle ça un peu ma bibliothèque personnelle, que j'utilise aujourd'hui, que ce soit pour des programmes, que ce soit pour des publicités, que ce soit pour de l'habillage sonore, n'importe quoi, où je peux utiliser un son entier, je peux prendre la batterie d'un son, le synthé de l'autre, etc. Donc c'était comme si je jouais en fait avec des samples qui sont déjà mes sons à moi. En fait.
Et avant d'arriver un peu à la French House, Quels étaient les artistes finalement ou les styles musicaux qui vous inspiraient le plus? Comment s'est fait ce cheminement-là?
Moi j'ai commencé, alors il y a eu le rock au tout début où c'était quelque chose d'important, en tout cas fin des années 90, en tout cas à Paris, mais je suis quand même allé rapidement sur le hip-hop, old school, avec tous ces... moi j'étais fasciné par tous ces artistes, Gangstar, Nas, et surtout les producteurs qui étaient les Pete Rock, les Neptunes, les DJ Premier. Et j'étais vraiment fasciné par ça. Et justement, vu que tous ces producteurs-là utilisaient des samples de soul, des samples de funk, tout ça, que moi je connaissais pas du tout à cette époque-là, je m'y suis intéressé grâce à ces samples de hip-hop qui m'a amené à découvrir un peu par moi-même la soul et la funk des années 70-80. quand on a, je sais pas, 12 ans, 13 ans et qu'on découvre ça, il y a tellement de choses à découvrir, c'est tellement super. Et peut-être qu'on en parlera après, mais quand on ne se considère pas forcément comme un musicien à part entière, c'est important de connaître tous ces producteurs qui ont utilisé des samples. Je vais expliquer ce qu'est sample au cas où quelqu'un ne connaisse pas. C'est qu'on prend un bout d'une musique qui existe déjà et on en fait des loops à côté en rajoutant des batteries, des basses, des synthés pour en faire une nouvelle musique. Et donc du coup, c'est quand même... c'est moins un travail de musicien, c'est plutôt un travail de producteur, un travail de beatmaker qui m'a amené en fait à découvrir toute la soul, la funk à ce moment-là. Et donc après avoir fini tout ça, j'arrive dans mes 13-14 ans, quelque chose comme ça, et c'est là où explose la French House avec des labels comme Headbanger par exemple. Et donc on découvre les Justice, le Daft Punk avait déjà sorti quelque chose avant, tout le label de chez Headbanger, et après les prochains avec Uxek et compagnie, qui utilisaient des samples, qui ont donné naissance à une sorte de nouvelles trends, de nouvelles musiques, qui étaient en fait finalement pour moi un peu comme ce qui se faisait dans le hip-hop, où on samplait, on mettait des beats par-dessus, on rajoutait des basses, on rajoutait des synthés, sauf que la différence du hip-hop, c'est que c'était beaucoup plus rapide, c'était beaucoup plus clubbing, si on peut appeler ça comme ça, quoi.
Et alors vous disiez que ce qui vous avait fasciné, c'était ces producteurs qui produisaient de la musique sans forcément être de grands musiciens, mais quand même à un moment donné, vous êtes passé aussi par là, parce que vous avez fait de la guitare quand vous étiez petit.
Ouais, une guitare quand j'étais petit, mais qui était rapide. Enfin, je me souviens que c'était une sorte de magasin de musique qui donnait des cours de guitare, donc ça n'a rien à voir avec faire du solfège, ça n'a rien à voir à faire du conservatoire. On t'apprend à jouer du Metallica quand t'as 11 ans et à faire les solos à la note près, quoi. Mais je pense que pour moi, c'était tout de suite plus simple de m'affirmer comme quelqu'un qui était plus un producteur qu'un musicien en tant que tel, même si j'ai appris la guitare là-bas, j'ai réussi à apprendre le piano par moi-même après, avec des vidéos YouTube, en côtoyant des gens, en côtoyant d'autres musiciens, etc. Donc très rapidement, on retrouve les gammes, très rapidement, on arrive à retrouver des sonorités assez facilement, mais pour être musicien, c'est-à-dire vraiment jouer quelque chose de très complexe, je pense que c'est moins ma partie à moi, et moi, je peux plutôt aller puiser sur des choses, sur des samples, et d'en faire plutôt une nouvelle musique, plutôt que d'être musicien, même si, évidemment, je joue une basse par-dessus, je joue une guitare par-dessus, un synthé, mais c'est quelque chose qui m'attire plus, le sampling, et redonner un renouveau à un titre qui existe déjà. Voilà.
On va revenir sur le podcast, du coup, donc Basket expérimental. En quoi, on l'a un petit peu abordé déjà, mais en quoi travailler là-dessus, ça a vraiment un petit peu bousculé vos habitudes musicales et dans quels univers justement vous avez dû vous plonger pour essayer de retranscrire aussi quelques bouts de la vie de Basquiat.
Il a fallu quand même... Il y a plein de choses que je ne connaissais pas. La musique caribéenne, par exemple, c'est des choses que je ne connaissais pas énormément. J'étais très branché à ce moment-là Afro House. Et donc, du coup, j'arrivais un peu à assimiler dans un sens un peu les deux, même si ce n'était pas exactement ça. Mais j'ai dû quand même me plonger un peu dans la musique caribéenne, dans le jazz qu'il écoutait. Il écoutait aussi du bebop, où c'est clairement pas un style de musique que j'écoute. Donc j'ai dû un peu aller chercher un peu à droite, à gauche, demander à des gens, essayer de comprendre un peu comment ces styles de musique fonctionnaient. Mais aujourd'hui, et ce qui est bien quand on crée son propre podcast où on peut faire un peu ce qu'on veut, j'ai décidé de faire exactement comme je le souhaitais. C'est-à-dire que j'allais pas reproduire du bebop pour reproduire du bebop si j'en avais pas envie. Je prenais des influences de musique caribéenne, de musique afro, de house garage, de musique bebop, de jazz, et j'en faisais un peu tout ça à ma sauce. Donc, c'est-à-dire que de temps en temps, si on écoute le podcast, on se dit, mais attends, mais il n'y a pas du tout de musique caribéenne, il n'y a pas du tout de musique afro. Mais en fait, j'essaye de prendre un peu ces inspirations-là et de les donner un peu comme moi je les vois dans un contexte un peu contemporain. Comme je disais au tout début, je pense que ça n'a pas de sens pour moi de faire exactement la même musique qui était faite avant. Dans ce cas-là, mieux vaut prendre les musiques qui existaient à ce moment-là, ça aura énormément plus de sens. Si c'est moi qui le produis, j'essaye de faire quelque chose qui a mon côté artistique avec toutes ces influences que j'ai dû prendre, quoi.
On va du coup décortiquer un peu musicalement tous les quatre épisodes. Donc on va commencer par le premier qui s'intitule The Nightbird, donc l'oiseau de nuit, qui s'intéresse à Basquiat et la vie nocturne. Et là, pour celui-ci, vous avez notamment emprunté des sonorités plutôt house, garage des années 90, avec des DJ comme MK.
Ah ouais.
Alors je vais faire écouter déjà le premier extrait. Mais vous êtes aussi inspiré d'artistes plus contemporains, comme Motor City Drums Ensemble. Et du coup, si on écoute un extrait du premier épisode,
premier temps, ça. Nightbird.
C'était complètement surréaliste avec la musique. Boum, 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 boum. On pénétrait dans cet antre de la musique et de la fête et de la drogue et de l'excès et du plaisir. Ok. Soho, Tribeca, et autour du School of Visual Arts, NYU, Washington Square Park. Et là, c'est presque comme une danse déjà où on frappe au mur avec tous ces tableaux vivants surréalistes pour arriver à danser.
Ouais, c'est au tout début, c'est le premier épisode, mais c'est d'essayer de voir. Moi, je sais que MK, à ce moment-là, faisait de la musique là-bas, à New York, ce moment dont Nathalie et Marie nous racontent, les clubs, etc. Elles nous l'ont dit direct que c'était garage. Et garage, house, c'est ce qui se faisait à ce moment-là. Moi, j'adore MK depuis très longtemps et je trouve que ça correspond bien à ça. Et on voit ces basses assez lourdes, assez sub qui sont derrière, avec des batteries très fortes par-dessus, qui étaient faites par des machines, des TR-909, des choses comme ça. Donc, alors moi, c'est exactement le style de musique que j'écoute, que je joue, que j'ai produit aussi. Donc, pour le coup, là, c'était très simple pour moi. Mais encore une fois, c'est pas du tout la même chose. Je sais pas si on a bien entendu vu que le son était un peu plus bas sur le podcast, mais c'est pratiquement la même chose sans être vraiment la même chose. Et c'est peut-être un des seuls sons qui se rapproche le plus de ce qui se faisait à l'époque. Mais c'est quand même un peu différent, ça reste un peu contemporain, et c'est bien d'avoir le MK des années 90 et le Motor City Drum Ensemble qui est, je sais plus, c'est année 2020, 2021, quelque chose comme ça. De voir qu'en fait, il y a très peu de choses qui ont changé, mais quand même, la base est la même, mais les instruments, la production, le mix changent un peu. Donc ça paraît plus normal pour moi de pas faire exactement la même chose et d'essayer de changer un peu le style de musique en gardant un peu les inspirations, quoi.
Et donc, si on passe au deuxième épisode, pardon, qui s'appelle Afro Everything et qui revient sur la culture africaine-américaine de Jean-Michel Basquiat, qui a lui beaucoup peint aussi la communauté africaine et latino. C'est quand même on le rappelle, le premier artiste à noir à accéder à un niveau de notoriété équivalent aux peintres les plus célèbres de son époque, comme Andy Warhol ou Kooning. Et pour celui-ci, vous avez beaucoup écouté Jules, rien à voir avec le rapport, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, Jules.
Mais je crois que ça se prononce comme ça, en fait, Jules, mais ce n'est pas du tout le rappeur marseillais, non.
Rien à voir avec le rappeur marseillais, non. Que vous avez aussi écouté en boucle ce son de Kate Renada qui s'appelle Pay for Haiti. You can pray on a nigga, you can pray for a nigga, no sweat. But if you pray on a nigga, don't play, cause I'm sick in the head. You can pray on a nigga, you can pray for a nigga, no sweat. But if you pray on a nigga, don't play. Hey, me que yo sé que me embocó yo pa' con él, pa' hacer un malo, ne, si yo pa' fome, li pa' colé. Li po' colé, yo gané, pa' si te digas, o ma' comer, a di li pa' comer. Yo hay something, ma' se ma' comer, si gan volé. Como a coté, yo papi, pa' pase, yo pa' fingre, se va de ta, yo gané, pi' baga, yo pito pa' coé. Yo gané, pa' colé. Qui chante d'ailleurs en haïtien, qui était d'ailleurs la seule musique haïtienne que je connaissais en réalité. J'y connaissais pas grand-chose à ce moment-là. Et Kate Renada a sorti une sorte de single avec cet artiste haïtien et on fait une sorte de rap haïtien avec le style Kate Renada derrière. Quoi. Et Jules, vous l'avez écouté beaucoup et vous en êtes aspiré pour plusieurs des épisodes aussi.
Ouais, parce que il y a énormément de courants afro, mais dans l'électro, il y a quand même énormément de afro house. J'ai écouté beaucoup d'afro house, j'ai écouté beaucoup de musique d'Afrique du Sud qui s'appelle de l'amapiano, qui marche beaucoup en ce moment. Mais c'est vrai que Jules, comme des artistes comme Kate Renada ou Sango, c'est des personnes qui essayent, comme moi, de changer un peu le code, c'est-à-dire de pas forcément faire de l'afro house, de faire de l'amapiano. Ils essayent de lier un peu tous ces styles de musique entre le hip-hop, l'électro, la soul, la funk, les musiques afro, et d'en faire une seule et unique musique. Donc c'est pour ça que ça sonne un peu différent, ça sonne un peu plus... je sais pas comment appeler ça, mais un petit peu plus indé, si on peut dire ça comme ça. Mais je trouve que les influences de Jules sont magnifiques. C'est quelqu'un qui arrive à retranscrire un peu toute sa culture afro et à donner une nouvelle vague, un nouveau mood en fait à tout ça. Et moi, j'ai été touché par ça parce que c'est exactement ce que j'essayais de faire. Évidemment, j'adorais Jules avant même de faire Basquiat, mais c'était exactement ce que je voulais faire une nouvelle ambiance de musique qui regroupe tout ce que Basquiat écoutait entre le garage qu'on a écouté tout à l'heure, l'afro house, la musique haïtienne, le bebop, le jazz, etc. Et je trouve que c'est un artiste, et en plus, il produit énormément de gens en ce moment, Jules, beaucoup de rappeurs. Et je trouve que c'est important aujourd'hui d'écouter des gens comme ça qui essayent un peu de changer les codes, en réalité.
Et du coup, si on écoute le résultat...
You're saying Afro-Haitian, Afro-Cuban, Afro-Caribbean, Afro-Latino, Afro-everything, the complete diaspora.
Célèbre, il était célébré par les gens les plus riches, blancs. Donc d'un point de vue des noirs, surtout que le rap était extrêmement politisé, hein, on pense à Public Enemy, il était vu comme un vendu d'abord parce qu'il venait d'un milieu bourgeois et ensuite parce qu'il avait réussi avec des blancs, pour des blancs. Donc du coup, chez Jean-Michel, c'est vraiment un déchirement.
Basquiat, 11 millions par exemple pour un de ses tableaux, alors que l'esclave de 100 livres, oui, ça serait un. On est tous un peu des esclaves dans ce cas-là.
Je n'écoute pas les critiques d'art. Je n'écoute pas les critiques d'art. Je suis pas une personne réelle. Je ne suis pas une personne réelle.
Yeah, give me a dump.
Je ne suis pas une personne réelle.
Oui, non, je pense qu'aussi on ressent dans l'œuvre de Jean-Michel une grande éruption d'exorcisme, de tourment enfoui depuis plusieurs générations.
Je reviens rapidement sur ce qu'on disait avant, de ne pas faire l'erreur de faire la musique avant de mettre les voix. Là, par exemple, on avait Chassol qui chante. Il ne chante évidemment pas sur la musique, puisque la musique a été faite après. Et donc, du coup, de pouvoir mettre la voix de Chassol qui chante sur le même rythme que de la musique, c'était un peu plus compliqué de trouver une musique avant et après de juste mettre sa voix dessus. Il fallait quand même composer plus ou moins sous sa voix et essayer de caler un peu sa voix sur la musique. Donc, c'était pour revenir là-dessus. Mais si, sinon, sur les influences, là, on sent bien, en tout cas, qu'il y a cette partie afro avec cette batterie, en fait, qui donne ce côté un peu afro, entre l'afro et peut-être presque un petit peu reggaeton sur certains moments. Mais on voit que la basse, la mélodie, comment ça a été composé, a plus des influences aussi un peu plus jazz, voire un peu soul, qui sont un peu derrière. Donc on ne reste pas uniquement sur des sonorités afro house ou caribéennes ou je ne sais quoi.
Et on retrouve un peu les mêmes inspirations pour le troisième épisode qui s'appelle Tis Tis ouais. Vaudou. Et qui revient sur plutôt la culture vaudou assez chère à Jean-Michel Basquiat de son héritage de son père qui est originaire d'Haïti et où on voit qu'il retranscrit beaucoup dans ses tableaux avec ses visages, ses bouches tordues et on retrouve donc un peu les mêmes sonorités. Vous me disiez que vous étiez un peu inspiré des mêmes artistes. On retrouve Jules encore notamment pour celui-là. On va écouter. Donc c'est Angelenify, je sais pas comment on le prononce.
Voit dans son, je crois que c'est le son avec Sango d'ailleurs celui-ci, donc c'est Sango qui est un producteur brésilien qui fait autant du hip-hop que de l'électro brésilienne et qui a toujours un peu ces petits codes derrière un peu brésilien de batterie, de rythme. Et donc là on voit le melting pot un peu de tous les styles de musique parce qu'il y a Jules qui fait un peu de la musique afro, il y a Sango qui fait de la musique plutôt brésilienne, on entend un peu de musique caribéenne aussi un petit peu derrière sur les percussions, sur la trompette.
Presque un peu jazzy aussi.
Presque un peu jazzy, donc en fait c'est un melting pot de tellement de choses en même temps et c'est ça qui est super à écouter et je trouve que ça convient bien si Basquiat était en vie aujourd'hui, il pourrait écouter ce genre de musique aujourd'hui même en fait. Donc à l'époque évidemment Jules et Sango n'existaient pas, mais je pense qu'aujourd'hui il aurait pu écouter quelque chose comme ça quoi.
Dans cet extrait de l'épisode 3, alors je crois que là on a plutôt des influences un peu reggaeton.
Ouais, tu prononces quand même un truc. Ou tu le dis pas juste, donc tu fais laisse un trou quoi. Tif, tif, tif. Peut-être que c'est ça.
Je ne sais pas si vous percevez le quelqu'un qui rentre en transe, il va répéter plusieurs fois le mot, il va répéter plusieurs fois l'évocation pour qu'en fait cette évocation prenne sens. Donc ça participe de l'image du mot qu'on met, qu'on pose, qu'on efface. On revient sur le même mot comme s'il y avait une hésitation. On était en quête de quelque chose, on hésite. On revient sur le même mot comme s'il y avait une hésitation. On revient et on finit par saisir le contenu de la chose.
Et un autre extrait aussi.
On sent ou on voit qu'il met en scène des choses qu'il aimerait obtenir. Et on ne sait pas si c'est de façon consciente ou non, mais voilà, quand il met de l'or sur son tableau, c'est parce qu'il souhaite en recevoir et il met parfois des messages.
The recording of the diaspora of African people around the world.
J'avais fait cette grande fête pour lui, Place 4 Roues, le soir de son vernissage chez Yvan Lambert. Je sais pas, on était une centaine d'amis entre la rue Vieille du Temple et la place du...
Pardon pour ce cut. Ouais, celui-ci, le deuxième extrait notamment, c'est ce que vous expliquiez sur comment détourner un peu les styles à votre sauce en liant un peu amapiano et culture plus house, quoi.
Ouais, c'est ça, et on sent que c'est plus rapide, on sent qu'il y a cette basse qui fait un peu plus house que ce qu'aurait dû être normalement dans un titre d'amapiano ou dans un titre d'afro house. Et ça revient tout le temps à la même chose, et ça revient comme des artistes comme Sango, justement, qui essayent un peu de détourner les codes, mais... Quand le but c'est de faire quelque chose sur Basquiat avec plusieurs styles différents, et surtout que là on parle du voodoo, on parle de plusieurs pays différents, plusieurs styles différents, dans ce même, il y a évidemment, c'est mieux de le rappeler, il y a deux titres que j'ai pas produits dans les quatre épisodes, et dont un qui est en fait des invocations voodoo, des chants voodoo qu'on a récupérés sur YouTube. Évidemment que je n'allais pas faire une invocation voodoo moi-même, enfin, ça n'aurait aucun sens, c'est des choses qui n'ont même pas été enregistrées, c'est des gens de là-bas qui s'y connaissent, qui font ça. Mais c'est intéressant d'arriver à retranscrire ça avec un autre style. Je trouve qu'on le voit encore plus dans le premier extrait, où il y a ce petit synthé qui montre quelque chose un peu de puissant un peu derrière. Donc voilà, c'est un peu ma perception de comment moi j'aurais vu le vaudou à ma propre personne en étant moi. Donc évidemment que c'est pas du tout la même chose, mais ce que j'essaye de retranscrire, c'est que quand quelqu'un écoute le podcast, il soit dans l'ambiance à ce moment-là avec ma touche à moi et pas forcément la musique originale à ce moment-là, quoi.
Et ce qui nous amène au dernier épisode qui s'intitule donc Cher Spider-Man, qui évoque plutôt la trajectoire de Basquiat liée à la culture hip-hop. Et là, vous avez repris toutes vos influences hip-hop old school, ouais, à fond.
La plus, beaucoup plus facile pour moi. Beaucoup plus facile pour moi parce que j'en ai produit quand même beaucoup de hip-hop old school. C'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose qui... évidemment, il y a aussi... On nous a bien expliqué que Basquiat écoutait énormément de jazz. Surtout apparemment quand il rentrait de soirée à 5h du matin. Moi, je suis pas, comme je l'ai dit au début, je suis pas forcément le meilleur des musiciens. Et surtout pour faire du jazz, c'est déjà encore plus compliqué au piano. Donc j'ai essayé de faire un peu comme ces producteurs que j'avais cités tout à l'heure, les DJ Premier, les Pete Rock, les Neptune, qui utilisaient des samples de jazz en fait tout simplement et qui ils en faisaient des petites boucles et après ils mettaient des batteries par-dessus et évidemment eux rappaient par-dessus après à la fin. Mais pour moi c'est un peu ma vision à moi du jazz, de comment moi je fais du jazz aujourd'hui, c'est en samplant ces artistes-là et en faisant un peu une nouvelle musique quoi.
Et du coup, on va d'abord écouter quelques extraits qui vous ont inspiré. Alors, on a Guru d'abord.
Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrd on the horns. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma, but I miss him dearly. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging. Mellow out and just lounging.
Et puis on a aussi Pete Rock avec Square One.
Ah shit, you know what I'm saying, like a hot jam. You know what I'm saying? Yo, you don't hear that no more, you know what I'm saying? Niggas get an SP-1200, think they produce extraordinaires and all that, you know what I'm saying? You know? Yo, but I and I gotta take them back. Square One. Square One.
I got some time to explain the true brain of a rhyme writer. Some take the stance of a gunfighter. Others inject intellect or self-respect, or simply kicking birds for a tight paycheck. What they neglect is creative aspects and control. The sounds and words originate up in the soul. My thought.
Et si on écoute.
Le Spider-Man fait penser au super-héros de Basquiat, parce que je suis en train de faire une espèce d'analyse d'une œuvre qui s'appelle Action Comics de Basquiat, sur laquelle t'as un Superman qui est mauvais. Et par exemple, ce Spider-Man m'a l'air assez mauvais.
Regardez-moi ce Spider-Man en noir!
C'était Anne.
Un voleur! Il m'a piqué mon costume!
Est-ce que tu veux nous en dire un mot?
On entend hein, sur les prods de Guru, je pense que c'est DJ Premier, je pense, et après Pete Rock sur INI. C'est évidemment des musiques qui existent déjà, qui ont été samplées dans des machines avec des vinyles et. Qui était à la base des musiques de jazz, en fait, et ils ont juste rajouté des batteries par-dessus. Enfin, il n'y a rien d'étonnant aujourd'hui, maintenant, parce que tout le monde sait un peu comment fonctionne un sample et comment on faisait du hip-hop avant, mais c'était une vraie révolution dans les années 90 de se dire que des gens qui n'étaient pas finalement des musiciens de base, ou en tout cas, ou alors pour certains qui n'avaient pas l'argent pour pouvoir se payer. Je sais pas, des guitares, des pianos, des basses, etc., pouvaient avec quelques machines en fait faire carrément une nouvelle musique de jazz en fait. Et moi, j'ai travaillé de la même façon en me disant, je vais prendre des morceaux qui existent déjà, je vais prendre des boucles en fait de morceaux de jazz et je vais rajouter à ma sauce encore une fois des batteries, des basses, etc. derrière. Et ça donne un peu le côté jazzy en fait qu'il y avait de cette époque de Basquiat. Et puis en plus, dans les années 90, j'imagine bien que enfin, tous ces titres sont plus ou moins sortis dans les années 90, donc ils existaient aussi. Et évidemment que ce n'est pas du jazz. On ne peut pas dire à un jazzman que ça, c'est du jazz, évidemment, mais les sonorités sont là, c'est la même façon de voir les choses, sauf qu'elle est produite différemment. Voilà.
Et vous êtes même allé jusqu'à sampler un titre hyper célèbre de 50 Cent.
So much better. Maybe use a window shopper. Mad at me, I think I know why. Maybe use a window shopper. In the jewelry store, looking at shit you came by.
Je sais plus. Je crois que je m'en mêle les pinceaux, je crois qu'il est là, mais.
Sans bas, l'âme, ka. Voilà. Vous êtes là.
Bizarrement, celui-là, c'est le seul que j'ai pas samplé, en fait. Celui-là, je l'ai rejoué, par exemple, mais c'est... Ce sont les mêmes accords, ce sont les mêmes choses. J'ai même glissé en sound design, on l'entend pas vraiment, mais le rire de 50 Cent qui est derrière pour... certaines personnes vont arriver à comprendre, mais on entend 50 Cent qui, dans l'oreille droite, rigole à côté. C'est juste exactement l'inverse de tout ce que j'ai dit. Donc c'est exactement pas samplé, mais c'est reproduire comme une sorte de cover. Mais encore une fois, c'est les mêmes accords, mais c'est composé différemment, c'est fait différemment. Mais c'est un peu les deux façons aujourd'hui que j'ai à faire. Et finalement, ça en donne carrément une nouvelle musique, parce qu'on écoute les deux, ça n'a rien à voir. En fait, les deux n'ont pas du tout le même... la même mélodie dans un sens, mais c'est sur la même gamme, c'est plus ou moins la même batterie, on entend le petit piano tilit derrière, c'est toujours un peu la même chose, mais revue un peu comme moi je le voyais, quoi.
Et vous disiez, alors vous n'avez pas chanté les chants vaudous, mais il y a aussi un titre que vous n'avez pas produit vous-même, ouais, dedans, dans le dernier épisode, un titre de Duke Ellington, si je ne me suis pas trompée, c'est bien celui-là.
Okay, thank you guys. Don't make me sound like an idiot. You know, it's Radio Nova. Come on, you guys. Fucking 1984, Radio Nova.
C'est la fin en plus, c'est la toute fin, je crois. Et vous m'expliquez que c'était important aussi donc pour vous de faire ce podcast avec des gens, hein, les gens qui parlent de lui comme ça, et d'essayer d'apporter votre patte et de voir comment vous, musicalement, vous pouviez retranscrire cette ambiance avec les codes de vos codes à vous et ceux d'aujourd'hui. Et en fait, tout ça, c'est un peu comme faire, vous me disiez, monter les sons comme un DJ avec des sons qui s'enchaînent.
Ouais.
Comment vous avez pensé
C'est un peu ça, le mixtape. Il y a deux sens à mixtape. Le premier étant d'appeler une mixtape album, c'est normalement un album qui a été enregistré pas forcément en studio, en indépendant, qui est un peu fait à la maison. Il y a un deuxième sens qui est là le sens pour ça, c'est une mixtape, c'est un DJ set, c'est un set de plusieurs chansons enchaînées par un DJ les uns après les autres. Là, c'est le même principe, seulement que ce sont uniquement avec mes titres à moi, mais c'est-à-dire que tous les sons vont s'enchaîner, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment deux morceaux qui vont être en même temps, comme un DJ l'aurait fait en soirée, pour laisser place aux nouveaux morceaux. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un peu, enfin en tout cas que nous on a appelé ça mixtape podcast, c'est parce que le son ne s'arrête jamais et de temps en temps il y a une sorte de mash-up entre deux morceaux qui s'enchaînent les uns avec les autres. Voilà.
Et est-ce que ça, vous avez d'autres projets, d'autres envies de travailler comme ça sur un podcast?
Ouais, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on fasse la même chose. Donc on a fait Fernand Léger l'année d'avant, on a fait Basquiat cette année, je pense qu'on devrait le refaire. Pareil, à mon avis, ça sera aussi sur un peintre. On ne sait pas encore aujourd'hui. On a quelques idées sur qui on pourrait le faire. Mais je trouve ça assez intéressant d'avoir fait Fernand Léger, qui est peut-être un peu moins connu par les gens qui écoutent Basquiat et ceux qui écoutent, ceux qui connaissent bien Fernand Léger ne connaissent pas forcément Basquiat. Bon, Basquiat est quand même un peu mainstream, donc tout le monde le connaît un peu. Mais j'aimerais bien aller sur autre chose complètement. De Basquiat et de Fernand Léger, et d'aller carrément sur un autre style, mais de refaire toujours la même chose, toujours avec la musique en mixtape, que ça soit du début à la fin, avec des productions que moi je fais, en m'inspirant un peu de l'auteur, en m'inspirant un peu des dires de ses amis, des gens qui l'ont connu, ou des choses comme ça, quoi.
Et est-ce que vous avez d'autres projets musicaux au-delà du podcast?
Ouais, on en parlait au tout début. Toute cette bibliothèque musicale en fait que j'ai faite pendant un an, je compte la refaire donc encore pendant un an à partir de, je pense, les mois prochains. Donc repartir sur un son par jour pendant 360 jours. Et utiliser les précédents, essayer peut-être de les sortir, essayer de les utiliser, que ça soit pour des publicités, que ça soit pour de l'habillage sonore, encore une fois, ou encore essayer de les utiliser, parce que de faire vivre un peu ces sons qui restent pas dans le placard, en fait, et d'essayer un peu de pouvoir les éditer, de pouvoir les sortir.
Mais comment on peut rester inspiré, créatif 7 jours sur 7 ?
C'est compliqué, hein, parce que moi, quand j'ai fini les 360 jours de titres, alors évidemment, je ne les ai pas fait vraiment en 360 jours. Hein, y a 350 titres, on va dire, en 400 jours. Il y a un ou deux jours que j'ai raté dans le mois ou des choses comme ça. Mais quand j'ai terminé, j'ai arrêté de produire du son pendant, là, ça doit faire 2-3 mois. Il y a une sorte de ras-le-bol, il y a une sorte de moment où j'ai fait tellement de choses qu'on ne peut pas être une sorte de robot qui s'installe comme en allant au bureau le matin et qui se fait à faire du son tous les jours en mode comme ça. Donc je pense qu'il faut mettre des temps d'arrêt. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des choses pour la créativité, en tout cas, de faire un titre par jour. Ça ouvre à des nouvelles choses, ça c'est sûr, à 100%. Moi, ça m'a ouvert à beaucoup de choses. Ça m'a montré un peu qu'il n'y avait pas qu'un style qui m'intéressait à produire, mais qu'il y en avait 3, voire 4, voire 5. Je pense que c'est bien de s'ouvrir à tous les styles de musique, et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, je vais surtout parler dans l'électro parce que c'est là où je m'y connais un peu mieux, se focus sur un seul et unique sub-genre. C'est même pas un genre, mais c'est un genre d'un genre. Et de s'ouvrir un peu, selon moi, ça va ouvrir à des nouvelles choses, à des nouveaux styles de musique, peut-être, comme on fait des Kaytranada, comme on fait des Jules. Et si aujourd'hui on tourne un petit peu en rond de ce qu'on écoute, en tout cas à la radio, de ce qui est dans le mainstream aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il faut donner un peu une nouvelle ère à tout ça, il faut donner un nouveau style de musique. Ça peut être quelque chose où on revient sur un style qu'il y avait avant, on le retape un peu avec des nouvelles choses, un peu plus à manière contemporaine, ou ça peut être quelque chose de complètement nouveau. Ça peut lier la techno avec le hip-hop, ça peut lier le bebop avec l'afro house, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, je pense qu'il faut s'inspirer de plusieurs styles différents, et pour moi, ça ne passe pas uniquement par l'écoute, ça passe aussi par la production, de mettre un peu les mains dans le cambouis, comme on dit ça, et un son par jour, il y a forcément des moments où ça fonctionne pas. Enfin, si, ça fonctionne, mais je veux dire, il y en a qui sont pas bien, en fait, tout simplement, c'est juste nul à chier. Mais...
Quand on a passé une mauvaise journée, par exemple.
Quand on a passé une mauvaise journée, mais c'est ce qu'on disait pendant la pandémie, c'est qu'il y a un moment où on vit, on écrit et on compose avec ce que l'on vit. Donc, si on ne vit rien ou si on passe son temps enfermé chez soi ou en studio pendant un an, au bout d'un moment, on est un peu dégoûté, en fait, de la production, un peu dégoûté de la musique. Moi, je me souviens que quand j'ai fini carrément l'année de production, j'écoutais même plus de musique. J'écoutais même plus de musique, ça m'intéressait même plus de mettre mes écouteurs dans le métro pour écouter de la musique, parce qu'il y a eu trop d'informations pendant un an, et donc à ce moment-là, c'est mieux de faire une petite pause de 2 mois après ça et repartir sur un nouveau cycle. Donc là, je me relance un défi de refaire encore une année comme ça, mais à voir après la deuxième année comment je vais voir si je peux refaire une troisième ou pas, mais on verra.
Bah, merci beaucoup. Merci. On a bien fait le tour, je pense, de la question, et on va passer peut-être aux questions de la salle, si vous en avez. On ne vous voit pas du tout, nous, mais...
On ne voit personne du tout, en fait, depuis tout à l'heure. Ah, c'est mieux, là.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'avais une question sur les inspirations, les samples, les covers en termes de droits. Évidemment, la musique, c'est tout le monde s'inspire de tout le monde et on a toujours des références, etc. Mais en podcast et même quand on fait des albums, etc., il y a une question légale aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est possible de faire en termes d'inspiration, de sample ? Est-ce qu'il faut prévenir les artistes qu'on s'inspire d'eux ? Est-ce que, enfin, à partir de quel moment c'est du plagiat ou la copie ? Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, en fait ?
Je vais essayer de répondre en sachant que je ne suis pas ultra technique sur ces questions-là. Je sais que c'est beaucoup plus simple de sortir une cover qu'un sample, qu'une musique qui a été samplée. Une cover, on reproduit l'exactitude de la musique qui est originale en la recomposant chaque note, chaque chose. Pareil, s'il y a des voix, il faut que ça soit exactement les mêmes lyriques. Ça, c'est très simple. Je pense, encore une fois, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas trop m'avancer, mais je pense qu'on peut, même sans demander à l'artiste, donc c'est-à-dire qu'on peut le sortir sur Spotify, sauf que 100% des droits revient à l'artiste, évidemment, donc c'est-à-dire que tout l'argent revient à l'artiste. Le sample, c'est beaucoup plus compliqué. Le sample, il faut faire des demandes aux ayants droit de l'artiste, parce que généralement on sample des choses de personnes d'il y a très longtemps, donc plus ou moins, désolé de dire ça, mais ces personnes sont mortes, et donc du coup les ayants droit de ces titres-là, on doit faire la demande à ces gens-là pour savoir si on peut utiliser le sample. Si oui, Et sinon, enfin, si oui, à partir de combien on peut répartir un peu la répartition de pourcentage entre qui va prendre quoi dans l'argent, etc. De toute façon, c'est toujours une histoire d'argent hein, par rapport à ça, parce que sinon, c'est très rare qu'un artiste dise « Je déteste la musique que t'es faite, je veux pas que tu la sortes ». Ça arrive parfois, mais souvent, les ayants droit, on n'a un peu rien à faire. Et donc, c'est très compliqué de pouvoir les joindre. Et c'est une bonne question, parce que moi, ça a toujours été un problème sur les titres que je vais sortir bientôt, donc à titre commercial, où il y a un sample de The Trump qui est dessus. Les ayants droit ne consultent pas leur mail ou n'ont rien à faire. Et donc, du coup, on ne peut pas les joindre. Et donc, du coup, on ne peut pas sortir le titre. C'est un peu, enfin, on pourrait le sortir, mais ils pourraient nous faire un procès, quoi. Pour ces titres-là, c'est un petit peu différent, c'est un peu la même chose, sauf que c'est vraiment des toutes petites parties. Là, je vais encore pas une fois m'avancer là-dessus, mais je pense qu'on peut utiliser un tout petit moment d'une musique, et ça doit être une question de seconde ou quelque chose comme ça, mais je suis pas sûr des trucs légaux exacts, en tout cas. Mais voilà, c'est un peu ça. Mieux vaut faire des covers que faire du sampling. Non. Ne faites pas comme moi.
Oui. Bonjour, oui, je suis Christine Lidon, autrice, compositrice et présidente du conseil d'administration de la SACEM. Donc merci pour cette question, parce que c'est complètement crucial. C'est la question la plus importante, parce qu'effectivement, il y a des compositeurs, des compositrices qui créent des sons, des chansons, puis un jour, ils se retrouvent un peu pillés. Et donc au début des années 90, quand il y a eu le début des samples, eh ben, il y a eu c'était complètement sauvage, et les gens utilisaient comme ça des samples, et il y a eu des régulations pour qu'effectivement les gens, les créateurs se retrouvent quand même intéressés et tu as complètement raison, Roman, c'est que là, au départ, on peut faire une reprise comme ça, du moment qu'on touche pas à l'intégrité musicale de originale, et effectivement les droits iront aux compositeurs, aux compositrices originales. Mais à partir du moment où on utilise un sample, et même si c'est quelques secondes, eh bien oui, on doit faire la demande aux ayants droit, si le compositeur, compositrice sont encore vivants, ou si à son éditeur ou éditrice, ou ses ayants droit. Voilà, c'est impératif, parce que c'est...
Ça reste possible, mais...
C'est
beaucoup plus compliqué.
Ben, c'est un peu plus long, ça prend un peu plus de temps, mais il faut compter sur la bonne volonté des éditeurs.
Mais encore une fois, comme vous l'avez dit au début, dans les années 90, c'était quelque chose un peu nouveau, donc je pense que voilà, la SACEM ou autre dans le monde ne savait pas un peu comment réagir, donc tout le monde a sorti... Dans tous les titres de hip-hop qui est sorti dans les années 90, exactement. Je suis pas sûr qu'il y en ait énormément. Je suis même pas sûr qu'il y ait plus de 10% de samples qui ont été clearés à ce moment-là.
Ah ben, ça a été clearé par la suite. Au départ, c'était open bar. C'est comme si tu rentres dans une boulangerie et puis tu vas, tu te sers et tu prends tous les pains, les brioches. Et ça a été effectivement régulé très rapidement et avec des arriérés pour effectivement que les créateurs se retrouvent quand même.
Ce qui est bien normal.
Oui, tout à fait. Merci.
Je pense qu'on a peut-être le temps pour une dernière petite question, si jamais.
Ouais. Oui, bonjour. Ici. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci pour ton temps et merci de partager ce que tu as fait. Moi, je m'appelle Nicolas, je suis monteur et sound designer pour les podcasts. Et j'avais une petite question, j'ai raté le début de la masterclass. Et je me demandais comment t'es venue l'idée justement de faire, si j'ai bien compris, une sorte de veille culturelle sur les événements qui arrivent pour créer justement cette mixtape qui est du coup cohérente par rapport à un événement qui arrive. Je crois que tu m'as parlé d'une exposition ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Et que du coup, t'as créé ça, t'as eu ce projet-là et ça t'a permis d'avoir une subvention, enfin, ou de produire la mixtape. Podcast, et c'est très intéressant, et je me demande si tu as une méthode ou si tu as des conseils, si Universal t'a aidé dans l'histoire, et si du coup quand tu as lancé les épisodes, y avait eu une stratégie de communication autour un peu pour la promo ou pas du tout dans tout ce process là.
Alors au début, la veille dont tu parlais, Quand on s'est intéressé à Basquiat, il y avait beaucoup de personnes qui... J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui connaissaient Basquiat, pas forcément personnellement, mais qui connaissaient un peu l'univers. On savait qu'il écoutait ce style de musique, on savait où est-ce qu'il était, à quel moment, etc. Ça me permettait de mettre des musiques sur des dates. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est les dates et les lieux. Donc, c'est-à-dire que New York, années 90, déjà, j'ai une idée de où est-ce qu'il est, Haïti, à ce moment-là. Ensuite, évidemment, on a eu cette subvention du ministère de la Culture qui nous a permis d'avoir finalement en fait de l'argent en fait pour pouvoir prendre le temps de produire ça. Et là, on a fait des interviews. Et à partir de ces interviews-là, alors moi j'étais plus ou moins là à la moitié des interviews, mais je les ai toutes écoutées vu que c'est moi qui les ai montées. Ces personnes-là, comme Nathalie et Marie dont on parlait, mais avec Chassol, avec Castelbajac, avec Ducou, c'est des gens qui l'ont côtoyé, qui parlent presque d'un point de vue sentimental dans un sens, et ça donne une réflexion autant sur la veille musicale dont tu parlais, donc qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là, quelle musique, etc. Mais aussi, c'est là où je veux mettre un peu le point sur l'aspect sentimental. Donc, c'est-à-dire que dans la musique que j'ai fait, le moment où parlent ces gens-là, j'essaye de montrer un peu le mood sentimental, pourquoi il parle. Il y a un moment, quelqu'un qui est très proche de lui, en tout cas qui était très proche de lui, qui était un de ses très bons amis, il n'en parle pas avec la larme à l'œil, mais pratiquement, et en fait il le décrit l'humain qu'il est, et c'est là aussi où j'essaye de retranscrire de la musique derrière tout ça, donc pas forcément, là on sort carrément de la musique caribéenne, de qu'est-ce qu'il écoutait, etc. C'est pas qu'on s'en fiche, mais presque, c'est qu'on veut ressentir ces mots avec la musique, donc là c'est carrément de la musique à l'image, bon c'est pas de l'image, mais de la musique à la parole, en tout cas. Et ta deuxième question, je pense que c'était par rapport à la promo. Écoute, non, on n'a pas forcément eu un... Oui, évidemment. Oui, pardon, excuse-moi. C'est qu'en fait, notre diffuseur, qui est Radio Nova, ça tombait un peu sous le sens, en fait, de faire ça avec Radio Nova, avec Basquiat, avec la musique worldwide qu'ils font, afro, etc. Tout ce qui est au niveau du hip-hop, tout ça. Donc, en fait, ça tombait au sens, ça leur a plu. Et en fait, toute la promo a été un peu orchestrée avec Nova. Et je trouve que, en fait, les deux vont super bien ensemble. Enfin, Basquiat, ma musique, plus Radio Nova, c'est un peu le trident qui fonctionne bien, en tout cas aujourd'hui, quoi.
Et pour la veille de l'actu musée, c'était Narrative.
C'était Narrative, donc c'est notre producteur Narrative, qui est une maison de production qui fait des veilles un peu constamment en fait sur les musées à venir, sur les expositions à venir. Donc ça peut être dans un an, ça peut être dans deux ans, dans trois ans. Et je trouve que c'est assez cool de faire quelque chose où il y a un moment de l'actu dessus. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un Basquiat il y a deux ans, mais on aurait pu faire exactement la même chose. Mais là, les gens s'y intéressent plus avec la Fondation Vuitton, avec la Philharmonie. Et c'est bien de tout regrouper au même moment. C'est comme, par exemple, imaginons que je fasse un podcast sur les JO. C'est mieux de le faire là, l'année prochaine, que l'année d'après, en fait, dans un sens. Même si tout est possible. Mais ça tombait à sens. Et je pense que pour le prochain, tu me posais cette question à la fin, si on refait quelque chose, je pense qu'on fera dans le même principe. C'est-à-dire qu'on regardera qu'est-ce qui se fait dans un an. Et on se dira, OK, on va bosser là-dessus, on va essayer de trouver des partenaires, on va essayer de trouver un peu de financement. Et si ça se fait, comme ça, on le sortira au moment d'une expo ou je ne sais quoi, ou autre.
Je suis désolée, c'est la fin. On ne peut plus prendre de questions. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci.
Merci, Romain.